franceinter.fr.
Permis de penser, bonjour à toutes et à tous. Charles Trenet l'a chantée et l'a trouvée douce. Les rappeurs aujourd'hui la trouvent violente, excluante, déchirée. Lui, il y a des décennies, il est parti à l'école buissonnière, sans a priori, pour essayer de comprendre, de cartographier ceux et celles dont on ne parle jamais. Il a pris comme instrument privilégié l'appareil photo et la caméra. Elle, depuis aussi très longtemps, par nature profonde ou et par engagement, préfère l'impressionnisme au manichéisme, déteste l'idéologique et la propagande et a inventé une forme de récit où la multiplicité des 100 voix nous fait entendre à bas bruit ce que les politiques devraient depuis longtemps comprendre et entendre. Dans quelle France vivons-nous? Cette notion de pays existe-t-elle vraiment au moment où l'Europe est si malmenée? Le pays, le nôtre, est-il constitué de nombreux territoires? Et alors à ce moment-là, où réside l'unité? Comment se déclinent ces notions aujourd'hui d'égalité, d'identité et de nation? Parcours sensible, récit subjectif, une certaine histoire et idée de la France, aujourd'hui dans Permis de penser, avec Raymond Depardon, cinéaste, documentariste et photographe, auteur de très nombreux films et de très nombreux ouvrages, dont le tout nouveau « Les habitants », un livre qui se décline aussi en film qui sortira en salle le 28 avril, et Florence Aubenas, grand reporter au journal Le Monde, auteur de très nombreux ouvrages et de très nombreux articles, dont « Le quai de Ouistreham en France » et « Grand reporter ». Nous commençons par écouter Pierre Bourdieu, c'était au moment de la publication de « La misère du monde ».
Il y a la grande misère sur laquelle on attire parfois l'attention, en particulier à la télévision, et puis il y a la misère relative, enfin les formes les plus communes, celles qui sont visibles autour de nous. Il y en a dans cette maison, il y en a dans les universités, il y en a dans les lycées. Et cette petite misère que l'on ignore est extrêmement importante parce que elle fait souvent écran à la grande misère. Les gens qui aujourd'hui parlent du monde social, les journalistes, les intellectuels, etc., sont souvent eux-mêmes en état de souffrance. Et cette souffrance fait écran à la vision réelle du monde. Donc, il y a un livre célèbre de Cervantes qui s'appelle « Les nouvelles exemplaires ». Je crois que ce sont des nouvelles exemplaires. C'est-à-dire ce sont des petites histoires de gens ordinaires qui se révèlent être très extraordinaires. Bon, ces gens, quand on les regarde et quand on les entend, ont des aventures tout à fait extraordinaires autour de toutes petites choses. Par exemple, il y a des conflits de voisinage qui se condensent dans l'histoire d'un chat. Bon, et ce petit chat est une sorte de résumé mythique des conflits qui opposent une famille d'immigrés la voisine française. Voilà des petites histoires.
France Inter, Permis de penser, Laure Adler.
Alors je vous pose la question à tous les deux, est-ce que ce sont les petites histoires qui peuvent constituer la trame d'une grande histoire et d'un récit national, Florence Aubenas?
Je pense qu'elles y contribuent. Je ne pense pas qu'il y ait un seul canal qui construit l'histoire. Mais c'est vrai qu'au niveau des historiens, cette idée que l'histoire n'était pas simplement Louis XIV dans ses appartements, les histoires des têtes couronnées, les grandes ce monde, etc., est quelque chose qui est apparu dans les recherches. On a fait l'histoire des prostituées, l'histoire des hôpitaux, l'histoire des rues de Paris, à partir des années 60. Malheureusement, cette révolution-là, le journalisme ne l'a toujours pas fait, je pense. Et on continue à traiter l'actualité, hein, l'histoire immédiate cette fois, comme si les choses importantes étaient uniquement Poutine, uniquement François Hollande a dit, etc. etc. Et je pense qu'il faut faire entendre la pluralité des voix d'un pays, en histoire immédiate aussi, et faire, nous, journalistes, cette révolution-là.
Raymond Depardon, est-ce que les petites histoires constituent la grande histoire? Et est-ce que cette notion de petites histoires existe-t-elle vraiment? Au passage, on peut souligner que Pierre Bourdieu, c'était en 1993, et qu'il a été prémonitoire quand même par rapport à cette misère du monde que le récit national ne veut pas intégrer.
Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'effectivement, Florence a raison. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, comme ça, les grandes informations, et puis on a l'impression qu'on est un peu en décalage. Moi, j'ai appelé ça les temps faibles à un moment donné. Donc voilà, on peut. Et c'est vrai que
par rapport au temps fort de l'actualité qu'on nous serine toute la journée dans les flashs d'infos.
Et les temps faibles, elles ont un peu aussi à l'intérieur du temps faible, il y a des temps forts. Et c'est vrai que une caméra, peut-être un magnétophone, et puis l'écoute aussi attentive de quelqu'un peut voir un petit peu des failles. Et ça, c'est sûr que ça fait écran les journaux comme ça. Bon, quand on regarde un tout petit peu les journaux de province, effectivement, il y a un tout petit peu apparaît certaines choses comme ça, une angoisse. On le voit en ce moment, mais c'est aussi un mélange de moi ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu dans ces villes comme ça, des villes moyennes, donc la moyenne, c'est difficile à faire la moyenne. Où c'est la moyenne? Elle est où, la France moyenne? C'est plus la France rurale, c'est plus non plus la capitale et les grandes capitale de province, quoi. Donc, essayer d'écouter un petit peu les gens qui vivent, qui discutent, qui ont des conversations. Et effectivement, ça m'intéressait de voir. On s'éloigne un peu toujours de cette France moyenne, même si on pense qu'on est toujours au cœur de quelque chose. On l'est jamais. C'est difficile, hein, il faut se faire violence. Et ça demande beaucoup de. Moi, j'ai toujours l'impression que je reste à l'écoute. Je suis plutôt curieux. Je fais beaucoup de navettes avec les régions, parce qu'on n'a pas le droit de dire la province.
Ben surtout au moment où les régions sont en train de se faire baptiser autrement et où ça occasionne d'ailleurs beaucoup, beaucoup de colère de la part de certains habitants. Qu'est-ce que la France, vous qui venez de signer ce film et ce livre, Les Habitants?
Ben, au départ, c'est effectivement du littoral, des montagnes et de l'intérieur des terres. 460 pays, paraît-il. Mais à la fois, c'est aussi des habitants. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre, ce titre n'a jamais été utilisé en France. Je trouvais intéressant parce que habitant, du coup, on n'est plus tout à fait avec les Français. C'est pas une question de nationalité.
C'est une question de territoire, alors d'enracinement.
Oui, c'est une question de voisins. Un petit peu, voilà. Qu'est-ce que le voisin? Qui est le voisin? Avec qui vivons-nous?
C'est pas comment vivons-nous, c'est avec qui vivons-nous?
Oui, oui, un peu. Parce qu'on peut pas être, on peut pas être complètement. C'est pas la même universalité que peut-être que la notion de France, qui est très belle, bien sûr, mais qui est autre chose. Là, on est dans. C'est pas seulement pour le vote. C'est pas pour payer des impôts, c'est aussi de vivre. Alors les gens, bon, moi je vois bien, il y a des gens qui me disent vous êtes, c'est terrible, c'est, voilà, votre film il est terrible, et on voit un peu des gens qui sont malheureux. Ben oui, mais il faut un petit peu regarder, parce que au fond c'est les misères du monde. C'est sûr que la misère du monde, elle est là, elle est un petit peu dans, elle naît là, elle n'est pas forcément où on la croyait. Bon, je peux dire ça devant Florence et elle comprendra. C'est-à-dire qu'on voit que les éditos des grands quotidiens, là.
Je vous rassure, Raymond, j'en fais pas.
Non, vraiment, je sais.
J'en suis incapable.
Ils parlent en notre nom en disant voilà où on en est. Mais je sais pas s'ils le savent vraiment, parce que je les vois pas trop à Tarbes. Donc à Tarbes, il faut y aller des fois, prendre une menthe à l'eau et puis écouter les conversations. Et là, t'es surprise, c'est ce que tu as fait, toi, sans arrêt, quoi.
Oui, mais c'était assez frappant. J'étais, justement, la semaine dernière, je faisais un reportage à Troyes. Donc, oui. Troyes, c'est pas loin de Paris, une heure et demie, même pas en TGV, donc voilà, tout va bien. Et je parlais aux habitants, je reprends, du coup, je pourrais plus dire le mot sans penser à toi, aux habitants d'un immeuble, d'un HLM qui venait d'être construit. Et donc, les premiers habitants y rentraient. Et je fais ce petit test bête auprès de 30 appartements. Je leur demande, qu'est-ce que vous pensez de la déchéance de la nationalité? Et sur 30 appartements, 25 ne savaient pas de quoi on parlait, n'avaient jamais entendu parler de ce débat.
Bien sûr.
Et donc je pense qu'il y a là des débats, des préoccupations qui sont tout à fait cloisonnées. Il y a des préoccupations, je dirais même pas parisiennes, mais d'une certaine catégorie de personnes, parce qu'à Tarbes, le préfet sait certainement ce que c'est que cette, ou à Troyes d'ailleurs, ce que c'est que ça, mais qu'il y a des catégories qui parlent de ça et d'autres qui n'en parlent absolument pas. Et ça, c'est très frappant, que c'est un pays à la fois très uni, la France, et où pourtant, on ne parle pas ou rarement des mêmes choses. chacun a son tropisme. Ça me frappait aussi, en voyant ton film, justement, qui sort, ça me rappelait un reportage en Tunisie. Et j'y étais allée à l'époque de Ben Ali, donc, qui a été renversé au cours des printemps arabes. Et alors, j'y arrivais comme jeune journaliste, et j'étais évidemment omnibilée par Ben Ali. Je demandais à tout le monde, qu'est-ce que vous pensez de Ben Ali? C'est terrible, là, là, là. Donc, c'était vraiment mes lunettes de l'époque. Il y a une femme qui tout à coup, me dit, arrêtez de parler comme ça, vous me donnez mal à la tête. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais nous, on a des vrais problèmes ici. Et je dis, c'est quoi? Et là, elle me crie, le mariage de ma fille. Et c'est vrai. Et c'est vrai que les grandes et les petites choses cohabitent. On en revient un peu à votre question, Laure.
Je vous propose d'écouter Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, qui, comme Raymond Depardon, est un voyageur, était un voyageur et aussi un photographe.
Lorsqu'on voyage très lentement, l'exotisme disparaît parce que d'une étape à l'autre, on vous prépare. Et d'ailleurs, ça, on évite beaucoup de dangers en voyageant lentement parce que à l'étape, on vous dira la rivière est en crue, le gué est dangereux, ne prenez pas celui-ci, prenez celui qui est plus à l'est. Et on vous dira, les gens de la bourgade où vous risquez de passer la nuit prochaine sont des filous, sont des salauds, ou sont au contraire très accueillants. Il y a toute une information qu'on obtient comme ça à la petite semaine, et qui fait que le voyageur lent est très rarement en péril.
Y a-t-il une méthode pour ausculter ce qu'est vraiment... Autrefois, on disait la France profonde. Maintenant, on n'ose plus du tout utiliser cette expression pour... Écoutez les habitants, les Français. Est-ce qu'il faut la lenteur, comme le disait Nicolas Bouvier dans ce livre merveilleux qui était L'usage du monde? Est-ce qu'il faut être très lent, comme vous, le paysan, Raymond Depardon?
Non, je ne crois pas qu'il faut être lent. Il y a un peu une différence. Parce que là, moi aussi, je voyage, j'ai voyagé, on a tous voyagé, effectivement. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait pareil. Là, je crois qu'il faut aller très vite, même au contraire. Parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Moi, je suis très content de faire cette émission avec Florence, mais on pourrait se compter sur la main des gens qui font l'aller-retour comme ça, entre des régions différentes, des classes sociales différentes, les paysans, mais les ouvriers aussi. Moi, je suis peut-être un peu moins... Toi, tu es peut-être un peu plus sur les femmes de ménage et moi plus sur les ouvriers, mais on n'est pas beaucoup. Non, non, mais... Parce que c'est une réalité aussi, de ces gens qui vivent. Donc, il n'y a pas... Moi, j'ai aucun jugement.
Vous voulez dire qu'ils sont laissés pour compte, non, à la fois par les médias, par l'actualité, et qu'on ne leur tend jamais de micro,
pas,
on ne les écoute pas.
J'ai pas de jugement par rapport à
eux. Pas les tutelles politiques.
Ouais, j'ai pas de jugement par rapport à eux. J'aime les gens. Donc, voilà. Pourquoi j'ai été à Villeneuve-Saint-Georges à la fin du film? C'est parce que je savais que c'est la ville des femmes de ménage de l'Île-de-France. Elles partent à faire les ménages à Défense et elles rentrent à 6h du matin par la ligne D. Et elles galèrent à élever des enfants d'origine, peu importe. Il y a 70 communautés à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, je sais qu'elles galèrent, bien sûr, parce que voilà, ils ont beaucoup d'enfants. Donc moi, c'est, au fond, j'ai l'impression que j'essaye de sortir de mon milieu, parce qu'effectivement, moi, si je m'écoutais, j'irais me balader voilà, dans le désert, et, un peu égoïstement.
Bah, le désert, vous l'avez déjà fait. C'est peut-être beaucoup plus intéressant, passionnant et séduisant d'aller, en prenant le dispositif que vous avez adopté, Raymond Depardon, donc une fourgonnette transformée en chambre d'enregistrement, d'aller écouter des habitants que vous n'avez pas choisis, que d'aller dans le désert.
Oui, bien sûr, parce que c'est mon pays, enfin, bon, c'est un peu bête de dire ça, c'est mon pays, voilà, j'habite en France, et après, finalement, on se dit, oui, il y a des gens se sont suicidés, il y a des agressions, il y a ci, il y a ça, il y a la montée de l'extrême. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce qu'on avait tendance un petit peu de croire que toute la province, elle est en colère et qu'elle va voter Front National, enfin, pour l'extrême, voilà, ou peu importe. C'est pas tout à fait exact, c'est pas pareil. Et je crois qu'il faut aller voir un peu plus près. Il ne faut pas chercher que ça, en tous les cas. Effectivement, sans doute, ils sont en colère, ils sont décontenancés. Moi, j'ai trouvé que, quand j'ai commencé la France, en 2004, j'avais l'impression qu'on avait un drôle de rapport au territoire. C'est curieux. Et tu parlais du territoire. Un peu comme les paysans. C'était forcément des pétinistes, etc., etc. Les ouvriers, oui, je sais pas. Et les Français avaient un drôle de territoire. Moi, je dis ça parce que par rapport aux photographes américains, que j'admire, bien sûr, forcément. Bon, ils sont plus là, mais Walker Evans et les Strand, etc. Ils avaient un rapport vachement frontal, très simple, très sain. Et alors, quand je disais, qu'est-ce que c'est que ça, et tout ça. Et c'est vrai que, quand j'ai fait ce premier Tour de France, en 2004, j'étais quand même effondré. Je me suis dit, la France est vraiment dans un sale état. Et c'était Jospin, à l'époque. tout allait bien. Coucou les petits oiseaux, mais Raymond, tu te trompes, là, t'as tort, mais c'est pas vrai, on le saurait. Non, mais non, on ne le saurait pas. À Paris, on ne le saurait pas. Et effectivement, et là aujourd'hui, je dis pas que ça va mieux, mais je dis que les gens ont pris conscience. Et il y a un petit changement, c'est pas pareil. C'est pas du tout les mêmes, on est 12 ans après, je vois que c'est plus les mêmes. Il y a des difficultés énormes. Bon, voilà. Et maintenant, les familles recomposées, c'est plus seulement, le 5e arrondissement. Hein, c'est aussi à Tarbes. Voilà. Et galère avec tout ça, les enfants, les téléphones, enfin tout ça, tout ce qu'il peut avoir. Il y a plein de choses. Il y a la toxicomanie, il y a l'alcool, il y a la recherche du travail. Donc effectivement, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas la même qu'en 2004. Voilà.
Donc vous êtes plutôt optimiste.
Oui.
Ben, on reviendra sur cet optimisme. Florence Aubenas, le partagez-vous? Car quand on lit vos remarquables articles... D'abord, votre méthode. Tout à l'heure, Nicolas Bouvier parlait de cette lenteur. Raymond disait qu'il fallait de la vitesse pour comprendre, comme une sorte de croquis, quoi, qu'on fait très très vite.
Je pense que on est tous assez intuitifs. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive dans un village comme ça, je fais aussi pas mal de reportages sans trop savoir chez qui je vais sonner, comment ça va se passer, etc. Et c'est un de mes moments préférés en reportage. J'arrive et je vois cette espèce de rue principale qui est propre au village français, cette espèce de rue qui s'appelle en général de la République ou Jean Jaurès ou Dieu sait quoi, enfin quelque chose de notre patrimoine, on est bien chez nous. Et donc on voit cette rue devant soi et j'ai une espèce de gourmandise comme devant une pâtisserie en me disant « Où est-ce que je vais sonner ? À qui je vais parler ?» etc. Et donc je regarde autour de moi et... J'allais pas dire qu'on se choisit, mais on se regarde, les regards se croisent, etc. Et là où les yeux s'accrochent, c'est le premier endroit où on s'arrête. Et c'est vrai que je pense que c'est surtout de prendre aussi le temps avec les gens, de les laisser aller le chemin qu'ils veulent prendre eux. C'est-à-dire que très souvent, en particulier quand on est journaliste, on veut les faire aller dans nos voies à nous. On veut les voilà. Moi, je viens là parce que je veux savoir ce qu'ils votent. Je veux savoir bon. Mais et en fait, non. Il faut les laisser un peu parler eux-mêmes, un peu dire ce qu'ils ont à dire, un peu essayer de les comprendre et de les faire aller, de se laisser entraîner par eux. Plus que l'inverse. Souvent, on est trop directif.
D'ailleurs, quand on lit vos articles, Florence Aubenas, ou qu'on voit vos films, Raymond Depardon, on se dit que finalement, on fait endosser à des gens des certitudes, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train d'inventer sans arrêt, et de métamorphoser, et de bricoler leurs opinions, et que ça peut évoluer.
Exactement. Et surtout, ils sont assez bons élèves. Donc, quand vous êtes journaliste, vous dites, attendez, mais on vieux, voilà, il y a la loi du travail qui vient de sortir, la loi sur le travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens vous répondent comme s'ils passaient le bac, parce qu'il faut avoir une idée. Et donc, le doigt sur le couteau du pantalon, ils vous forgent une réponse, en général, ce qu'ils ont entendu aux infos, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui les intéresse. Et si vous leur parlez travail, c'est tout à fait autre chose dont ils vont vous parler. Par exemple, cette loi du travail. Donc, voilà. Puis alors, je voyais les yeux se vidaient, les gens étaient paniqués, ils se disaient, mais j'y connais rien, je l'ai pas lu, qu'est-ce qu'elle me demande, etc. Et au bout d'un moment, il y en a un qui m'a dit, oui, il y a quelque chose qui m'a frappé avec cette ministre du Travail. Vous voyez, un jour, elle était malade après avoir déposé sa loi. Et je me suis demandé, est-ce qu'elle a posé un congé maladie? Ces gens-là, comment ils se font rembourser? Et donc, il était rentré dans un truc. Et finalement, c'est la loi aussi, la loi du travail aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment un ministre, quand il est malade, il dépose un jour maladie ou pas. Et c'est ça qui le passionnait. Et moi, c'est ça qui m'amuse. C'est ça où on a une insatiable curiosité, d'une certaine façon, autour de ça. Et l'autre chose qui me frappe beaucoup, c'est l'espèce c'est vrai que quand on entend Bourdieu, on a tendance à voir le condensé de ce qu'il dit, c'est-à-dire le mot misère. Mais en réalité, les gens prennent les choses avec une espèce de bonne volonté qui est très désarmante. Et les gens ne se laissent pas du tout aller. Alors c'est vrai que si on appuie sur le bouton « vous êtes très triste », ils vont tous vous répondre « oui, je suis très triste ». Mais il y a là une façon de prendre à bras-le-corps des situations extrêmement complexes, difficiles, parfois douloureuses, qui forcent le respect. Et à chaque fois, c'est « mais si, on va s'en sortir, ça finit ». À la fin, c'est lui qui vous tape sur l'épaule et vous remonte le moral. Et là, il y a quelque chose de particulier en France autour de ça, je trouve.
On écoute Frédéric Wiseman, qui, comme Raymond Depardon, depuis plus longtemps que vous, Raymond Depardon...
C'est mon père.
Oui, c'est presque votre père. Mais c'est un jeune homme de 80 ans qui continue à faire des films magnifiques, comme Titi Cut Folie, ça c'était dans les débuts. Mais là, vous pouvez voir en ce moment même sur les écrans en France, dans notre douce France, un chef-d'œuvre qui s'appelle Jackson Heights, qui est dans la banlieue de New York. et nous allons l'écouter sur sa définition et sa méthode de cinéaste documentariste du réel.
Je crois que c'est aussi important de montrer quand les gens riches vivent que les gens pauvres. Et la méthode est très simple. Je ne fais pas beaucoup de recherches. Je passe seulement une ou deux jours à l'endroit, à l'institution, avant que je commence le tournage. En général, je passe entre 4 semaines, ça c'est le plus court, le plus long, c'est 12 semaines. Dans cette période de tournage, je accumule les rushs, en général entre 75 heures et 125 heures. Et je n'ai aucune idée du thème du film avant. Je simplement tourne les événements qui m'intéressent. Et quand je commence le tournage, je rencontre les gens qui travaillent ou qui sont les clients de l'institution et ils m'aident. On est là, en général, entre 10 et 12 heures. Je parle avec des gens, ils me donnent les idées, ils me disent qu'est-ce qui se passe. J'essaie de trouver où sont les centres de pouvoir. Et puis, je découvre le film pendant le montage. Le montage prend à peu près un an.
Alors, Florence Aubenas, vous choisissez pas les riches, hein?
Non, je ne choisis pas les riches, mais...
Ça ne vous intéresse pas, les riches, vous savez comment ils vivent.
Non, je ne sais pas du tout comment ils vivent, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais non, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est paradoxalement beaucoup plus compliqué...
De se déguiser en riche.
De se déguiser en riche, et même c'est des milieux beaucoup plus fermés d'une certaine façon que le milieu des pauvres. C'est... Quoique moi, je ne me considère pas comme spécialiste des pauvres. Il y a quelque chose au journal qui m'effondre toujours. Il y a tout à coup quelqu'un qui arrive en brandissant une dépêche en disant « J'ai là quelqu'un de très malade, au chômage, etc. » C'est pour toi. mais ce n'est pas du tout ni mon but, ni ma façon de faire. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Il y a des bouquins formidables qui sont sortis sur les riches. Je pense qu'en termes de parole, ils l'ont suffisamment. Ça, c'est un peu le fond de ma pensée.
Des chopes de bière s'empilent sur les tables dressées pour le banquet, mais personne n'a d'appétit pour la purée carbonade qu'apportent les serveurs. À cette heure-ci, on préfère se nourrir des félicitations, des rires d'accolade. Il est minuit et demi, ce dimanche 13 décembre 2015, au Café de l'Univers à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et là, vous racontez, Florence Aubenas, dans le journal Le Monde daté du 15 décembre 2015, à quel point, contrairement à ce qu'a dit Raymond Depardon tout à l'heure, à quel point finalement... Il y a une France d'en bas qui pense que la France d'en haut, elle est complètement hors d'atteinte. Et vous citez un monsieur qui dit « On s'est mis à mépriser la classe politique pour sa lâcheté et son manque de morale. » Et vous interviewez un peu plus loin une femme qui tient un bureau de vote et qui est employée à la Sécurité sociale et qui dit « Les jeunes choisissent le FN, ils veulent renverser la table, ils ont pris conscience de leur pouvoir, ils disent « C'est notre tour, on n'a rien à perdre ». Oui, je pense partagez-vous la vision optimiste de Raymond. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de réveil par rapport à cette espèce de lassitude, de fatigue, d'angoisse des lendemains qui déchanteront de toutes les façons?
Je pense que le vote FN en est une des incarnations. Hein. Ce n'est pas la seule, il y a beaucoup de gens qui ne votent plus, donc qui est encore autre chose. La moitié des Français ne votent plus, donc c'est encore plus, j'allais dire, impressionnant. Hein, le premier parti en France, c'est le parti de l'abstention. Le FN...
Et vous seriez d'accord pour que cette abstention soit notée politiquement et prise en considération?
Bien sûr, je pense que c'est ça le problème numéro 1.
Et pour le vote obligatoire aussi?
Non. Je pense qu'au contraire, le vote doit être une adhésion pleine et entière et pas du tout quelque chose qu'on fait avec une contredanse à la clé. Quoi. Ça va pour moi à l'inverse des motivations citoyennes.
Oui, mais pourquoi la majorité des Français ne votent plus?
Parce que le pays se divise aujourd'hui non plus en droite et gauche, comme ça a été longtemps le cas, mais en système-anti-système. Et donc, je pense qu'il y a d'un côté les partis considérés comme faisant partie d'un système, la droite, la gauche. Je suis désolée de reprendre les choses de cette manière-là. Moi aussi, ça me consterne de voir qu'on met tout le monde dans un même sac. Mais je pense que ça fait partie d'une réalité aussi, d'une manière de faire politique qu'il faut la prendre en compte. Et là, quand on voit des sondages aujourd'hui qui disent On espère, disent les Français, que ni Sarkozy ni Hollande ne se présenteront. Il y a là, encore une fois, ce système anti-système qui est la véritable ligne de fracture politique en France aujourd'hui. Et le FN, dans cette ligne de fracture, est pour l'instant considéré comme anti-système. Je ne suis pas persuadé, en revanche, que ça va durer, parce que je pense que ce parti-là est en train, assez vite, d'une certaine façon, de rentrer dans les schémas classiques. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça se...
C'est un parti qui se dit anti-système, mais avec l'annonce, d'ailleurs, que votre journal a fait, des Panama Papers, on s'aperçoit qu'ils sont quand même complètement dans le système de corruption des partis politiques et des plus grands dictateurs dans le monde.
C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas persuadée que ça va durer et qu'on va avoir une autre approche du FN au bout d'un moment. Mais pour l'instant, force est de constater que jusqu'aux dernières élections, le FN était considéré comme... oui, c'est ça, une façon de protester, un vote. Il y a des gens qui disent de façon, je rentre dans l'isoloir, je mets mon bulletin dans l'urne, j'ai l'impression de mettre une bombe dans la classe politique. Et où il y a cette façon, je vais tout faire péter, c'est sûr, je vais renverser la table. Beaucoup de gens le disent. Et je trouve ça extrêmement impressionnant, inquiétant. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ça ne semble pas du tout être calculé par la classe politique. Tout continue comme si les choses, on voit les résultats politiques, comme si tout était normal, quoi. Et or, je pense qu'on vit une situation extrêmement explosive, compliquée, et qui a effectivement aussi d'autres manifestations, hein. On voit Place de la République, c'est encore évidemment embryonnaire, mais ça donne cette impression.
Enfin, hier soir, ils étaient encore très nombreux.
Et voilà, ils sont évidemment très nombreux.
Et de plus en plus nombreux.
Exactement.
Dans les villes.
Exactement.
De la France profonde, comme dirait Raymond
Domenech. Oui, et c'est vrai qu'il y a là une volonté aujourd'hui de faire de la politique autrement, qu'on voit, il y a 1000 signaux qui s'allument, mais c'est passionnant, l'élection présidentielle va être passionnante parce qu'il va falloir prendre ça en compte.
Alors comment on va tenir jusque-là, Raymond Depardon? Dans votre film Les Habitants et dans votre livre, les gens ne parlent pas frontalement de politique. Ils parlent de leur vision du monde, de leur vision de la citoyenneté, mais ils ne parlent pas de parti politique.
Non, ils parlent encore beaucoup de la famille, des relations, oui, qui en fait est quand même encore très forte dans des liens. Enfin, la famille est très très existante. Des problèmes effectivement de terre à terre, de garde d'enfants, etc. Plus que du travail. Enfin, c'est un peu paradoxal. On a l'impression. Je crois que les gens sont pas complètement dupes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Florence. Mais je pense qu'il y a aussi il y a une réalité française. Il y a un peu un réalisme. Pas paysans, mais qui viennent, il est pas très loin, hein, parce que c'est tous des gens qui descendent de plus ou moins une ou deux générations du monde rural. Il y a un réaliste quand même qui va, j'espère, va se re... ils vont voir que c'est de l'escroquerie quand même, ce vote extrême du Front National. Donc ils vont se ressaisir, mais bon, voilà, ça va, il faut attendre un petit peu. Moi, je suis un peu confiant. Et justement, Nuit debout en est une, puis d'autres choses, on va trouver d'autres choses peut-être. Bon, donc pour l'instant, on est tous en attente. Je suis surpris. J'ai été surpris, effectivement, pendant ces deux mois de tournée autour de la France, de pas avoir plus de cris. Et en fait, non. Et c'est plus, effectivement, des petites misères, pour reprendre la dernière de Bourdieu, des petites misères qui font la puissance aussi des Français, parce qu'ils ne se laissent pas battre. Ils ont un travail comme ça, une énergie incroyable. Mais c'est vrai que le lien familial est encore très fort, mais peut-être plus fort dans les petites villes que dans les grands centres urbains. Mais je sais pas. Pour l'instant, je découvre ce film moi aussi. Je trouve que la femme a pris la parole. On a découvert que la femme avait pris la parole.
Bah, il était temps.
Hein. Dites donc, alors là, elle est bonne celle-là.
Oui, mais là, on voit bien. Non, mais on a senti dans les petites villes, elles étaient toutes volontaires à venir parler et elles racontaient toutes des choses.
Oui, alors vous faisiez un appel,
non,
sur la place publique avec un tambour,
voilà,
une trompette.
Plus. Non, c'était une jeune assistante, Judith, qui était spécialiste en casting sauvage et donc qui allait autour et qui allait voir les gens qui étaient déjà en conversation, en disant vous voulez pas venir finir la conversation dans la caravane. Et puis moi, je lui demandais des fois des choses un peu plus, essayer de me trouver des personnages ou des jeunes, des plus jeunes. Donc on rectifie un peu, mais voilà, c'était à part là, on n'intervenait pas et on leur donnait une demi-heure de parole. Et voilà. Donc on a filmé comme ça 45 heures et puis on a ramené à 1h23.
Vous avez pris soin quand même de mettre différentes générations, différentes origines, à la fois en termes de classe sociale et en termes de culture, parce qu'il y a différentes cultures qui s'expriment. C'est une France métissée qui s'exprime. Et je ne sais pas si Florence a partagé mon étonnement, mais la jeunesse qui vraiment prend la parole dans ce film, elle n'est pas du tout inquiète de l'avenir, elle est plutôt très joyeuse, hein.
Oui, bien sûr, mais j'étais en Belgique pour les attentats qui ont eu lieu récemment, et c'était assez impressionnant parce qu'il y avait un père qui était là. Ils auraient été formidables d'ailleurs dans votre bouquin, Raymond, parce que en fait, ils étaient en tenue de vélo, en tenue de cycliste, vous savez, la tenue complète avec le casque, etc. Et donc, le fils avait 15 ans, le père avait mon âge. Et tout à coup, le père dit oui. Alors l'autre jour, on entendait l'annonce des attentats et je vois mon fils qui était sur mon ordinateur et je me dis, il s'en fout. Et le fils s'est retourné à ce moment-là et lui a dit, tu sais, papa, moi, je suis né en même temps que le 11 septembre 2001. Et tu vois, moi, je suis né 2 jours après. Et moi, le monde dans lequel je vis, mon monde, c'est celui-là. Et moi, je l'aime.
Bien sûr.
Et je pense qu'il ne faut pas dénier ça à cette jeunesse. C'est-à-dire, c'est son monde aussi. Et elle l'aime et c'est normal. Elle le prend à bras le corps. On ne peut pas leur dire, ah, regardez, c'est terrible dans le monde dans lequel vous allez vivre. Il y a un appétit qui est le leur. Et heureusement.
Bien sûr.
Le modèle est mort, on ne sait pas amener les gens vers un ailleurs. C'est ce que vous dites en titre d'un de vos articles daté du 10 décembre 2015, c'était à Roubaix, quand vous avez été à la rencontre de militants du Parti Socialiste. Je pense que ce modèle politique, il est en train de prendre l'eau de toutes parts. Vous le montrez aussi, Raymond Depardon. Vous avez évoqué ce qui se passe Place de la République et partout dans les grandes villes et les petites villes de province. Est-ce que vous pensez qu'on se situe à un moment où on est obligé de changer de système et que les seuls qui ne s'en rendent pas compte, ce sont les politiques ?
Oui, un peu. Ben, c'est pour ça que cette idée du film, parce que c'est vrai que moi, je voulais partir, je sais pas où, en Afrique, faire un nouveau film. Je me suis dit, non, faut arrêter. Donc, c'était l'année dernière. Je me suis dit, c'est vraiment un moment où il faut parler sur la France. D'ailleurs, on le sent qu'il y a un retour
L'environnement, la qualité de la vie, capteurs solaires,
alors, surtout que là,
la bonne bouffe et tout ça.
Voilà. Alors, surtout que là, en ce moment, officiellement, on est dans les deux années, 2015 et 2016, on est théoriquement, on n'a pas d'élection. C'est 2017. Mais on sent bien que là, il faut vraiment foncer, poser des questions importantes. Parce qu'après, on va rentrer peut-être malheureusement dans une bataille. Je ne sais pas comment elle va se passer. C'est pour ça qu'on voulait faire le film.
Vous allez suivre la campagne des prochains candidats, vous qui avez suivi la campagne de Giscard ?
Non, je crois qu'il faut faire autre chose. Alors là, on va encore voir effectivement des grands meetings avec des
voilà. Ah, comme vous êtes obligé d'aller là. Il y a 1000 choses à voir. Ah non, moi je vais la suivre.
Oui, c'est
alors
ça. Il faut pas voir ça. Quoi.
Mais vous allez la suivre d'où, Florence ? Ah ben d'où et où ?
Ah ben ça. Alors là, je vais prendre une carte de France. Je sais pas encore, mais je vais vous dire. Il y a 1000 endroits.
Bien
enfin,
sûr.
Moi, je suis passionné par ce. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime particulièrement le journalisme politique. Mais là, je pense que c'est un moment qu'il faut pas laisser passer. Je veux dire, il y a eu quelques années auparavant, dans les années 2000-90, ce sentiment d'impuissance. Regardez, les hommes politiques ne peuvent rien, tout se décide à Bruxelles, c'est plus eux qui tournent le volant, nous-mêmes électeurs, on met un bulletin, mais rien ne se passe, etc. etc. Et je pense que le fort de ce moment qu'on vit aujourd'hui est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on peut faire quelque chose et qu'il y a eu des expériences compliquées, malheureuses, je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, je pense aussi au printemps arabe, où les choses, voilà, ce qui n'était pas possible paraît soudain possible, y compris si ça tourne mal, si c'est pas facile et on sait pas comment faire, etc. Mais c'est ce moment-là est arrivé. Et je crois qu'il faut s'en emparer et que c'est notre rôle à nous tous, à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il ne s'agit plus maintenant de déléguer à quelqu'un d'autre, de faire un parti, puis on va voir si je vais prendre ma carte. Je crois que cette envie citoyenne, elle est vraiment très palpable aujourd'hui, y compris dans des petites choses. C'est-à-dire que j'étais très frappée, là, on recrutait des jeunes journalistes pour une expérience qu'on fait au Monde, et le premier choix de sujet qu'ils faisaient était comment on vit chacun sa vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, comment quelle électricité j'utilise, etc., etc. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est à l'heure de ces choix-là. Et ça, c'est vraiment très important et passionnant. Hein. Je trouve vraiment que c'est un moment où les frontières bougent et c'est des moments géniaux.
Merci pour votre gourmandise de la vie. C'est pas seulement nuit debout, c'est jour et nuit debout. Et on va se quitter en écoutant Mickey 3D, son nouvel album, un de ses titres, Liberté, Égalité, Fragilité. Thank you.
route départementale, ces films à accord parental, ces associations de loi 1901, ces collectifs à but non lucratif, les débats télévisés, les apéros les soirs d'été, les plages au sud surpeuplées, les touristes allemands à la peau grillée, les bus et les quartiers, les commerces de proximité, les rues pavées, les villes fleuries, les villages, les cantonniers. Liberté, égalité, fraternité, fragilité, tu la connais, la liberté, l'égalité.
Merci Florence Aubenas. Je rappelle que vous pouvez lire les articles de Florence dans le journal Le Monde et lire ses bouquins qui sont formidables. Le Quai de Ouistreham, En France, Grand Reporter. Merci à Raymond Depardon. Donc, Les Habitants, le film sort le 28 avril. Je pense que sur France Inter, vous allez beaucoup en entendre parler. Merci à l'équipe de Permis de Penser, Michel Biou, Ophélie Vivier, Anthony Thomasson et Jean-Baptiste Audibert. Vous écoutez France Inter et après le prochain flash de la rédaction, vous avez rendez-vous avec Denis Chessou pour CO2, mon amour.